Soyez bienvenus, merci de votre fidélité et de votre ponctualité à International, l'émission de TV5 Monde de RFI réalisée avec le quotidien Le Monde. C'est l'un des observateurs les mieux reconnus de l'actualité internationale que nous allons recevoir aujourd'hui. Dominique Moisy, merci d'être des nôtres. Vous êtes enseignant, spécialiste de géopolitique, notamment à l'Institut Montaigne à Paris, et vous publiez ce nouveau déséquilibre du monde, recueil de près de 10 années de chroniques que vous avez signé dans le quotidien français Les Échos. Dominique Moisy, je le disais, merci d'être avec nous en ce jour particulier. Nous en reparlerons d'élections présidentielles en France. Vous vous êtes livré à cet exercice un peu particulier de reprendre, sans rien y changer, des chroniques, donc écrites sans recul, au jour le jour. Et vous insistez notamment sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous allons faire ce tour du monde avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du quotidien Le Monde. Tout d'abord, ce qu'on constate, c'est que on parle évidemment de Trump. Vous êtes, je le disais, l'un des meilleurs spécialistes de géopolitique internationale. Vous vous êtes planté. Vous ne l'avez pas vu venir.
Totalement. Totalement. Ben, aucun de mes collègues à Harvard n'aurait parié un copec
ou un dollar,
sur l'élection de Trump. Et je me suis trompé, précisément parce que je vivais dans un univers qui ne l'a pas vu venir. Les médias libéraux anglo-saxons. La veille, je voyais les prédictions du New York Times et j'étais en train d'essayer de convaincre mon fils cadet, qui vit à New York, qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur, parce que quand même, au bout du compte,
il vous voyait un peu différent aujourd'hui.
Je connaissais bien l'Amérique, et etc. Donc, je crois que je me suis trompé totalement.
Vous n'avez pas été le seul.
Non.
Je reviens sur cet événement. Vous écrivez, c'est la fin d'une époque de près de 70 ans pour le monde et singulièrement pour les États-Unis. C'est aussi important que ça, l'élection de Trump.
Mais c'est-à-dire, c'est la fin d'une période
de 70 ans
où l'Amérique pouvait apparaître comme le champion de la démocratie. Elle pouvait, au nom de la démocratie, commettre des crimes, faire des erreurs majeures, mais elle apparaissait quand même comme le champion de la démocratie. C'est la fin d'une époque où l'Amérique est, en dépit de ses erreurs, perçue comme un modèle. Là, elle apparaît soudain comme un anti-modèle, comme un encouragement au populisme du monde entier. Si même l'Amérique se met à élire un populiste, alors c'est peut-être la fin d'une époque où le modèle démocratique apparaît comme une norme à atteindre. Bon, au fond, peut-être que c'est la fin de la démocratie.
Voilà,
c'est peut-être pas la fin de 70 ans, mais c'est peut-être la fin de 200 et quelques années.
Ouais, 1796-2016, ça se trouve, vous estimez qu'un chapitre qui se clôt.
1776-2016. Disons que c'est une interprétation possible. Ce sera aux historiens de décider demain, mais c'est une possibilité.
Dominique Moisy, Trump, il est quand même un peu insaisissable parce que à son élection, à son arrivée au pouvoir, on le décrit comme un populiste, etc. Puis depuis un mois, on a l'impression qu'il mène la politique d'un républicain normal, enfin d'un républicain quoi, assez conservateur, plutôt de droite, mais pas si exceptionnel que ça finalement.
Alors c'est une interprétation qui est très présente chez, par exemple, Henry Kissinger, qui dit « Vous n'avez pas compris, Donald Trump, ça n'est pas un idéologue, c'est un homme d'affaires pour qui le seul critère est celui du succès. Il veut marquer des points. Il pense à son image, il ne croit à rien. Ceci dit, il ajoute, Kissinger, c'est quand même un homme imprévisible et donc dangereux. C'est pas un républicain classique.
Oui, parce que son profil psychologique, vous qui avez écrit également la géopolitique de l'émotion, vous devez, j'imagine, observer cet individu de près, sa psychologie, sa façon de surprendre. Il n'est pas une contradiction près. Certains vont jusqu'à questionner son état mental. Qu'est-ce que vous pensez de ce questionnement ?
Là, je ne me lancerai pas dans l'étude de l'état mental de Trump, mais ce qui me frappe en tant qu'analyste des relations internationales, c'est le contraste entre le dirigeant américain et le dirigeant chinois. Quand même, voilà les deux premières puissances au monde. Il y en a un qui n'a jamais lu un livre, qui fonctionne à partir de tweets et de l'image. Il y en a un autre qui est fier de la civilisation chinoise et qui se réfère, comme ses prédécesseurs, à des précédents qui datent de 1000 ans avant Jésus-Christ. Mmh. Donc vous avez le très long terme et le court terme immédiat.
Ma question c'était, est-ce qu'il vous semble maîtriser ses émotions? Ou est-ce qu'il gouverne avec ses émotions?
Quand on voit la réaction de Trump en Syrie, on se dit qu'il y a chez lui un mélange d'émotions et de calculs. Il se dit, voilà mes émotions, mais c'est très bien que je les mentionne de manière aussi ouverte, parce que ce faisant, je montre que je ne suis pas Barack Obama. Et donc il y a un mélange de politique intérieure et de politique internationale. Ça me fait penser à ce que disait un auteur décrivant le général de Gaulle dans l'église Notre-Dame de Paris en août 44. Et il aurait dit, soi-disant, « Je me sentis pris d'une émotion calculée. » C'est-à-dire qu'il y a le calcul et l'émotion à la fois. Je me suis senti saisi d'une émotion calculée.
Mais pour, on arrive bientôt aux 100 jours de Trump. Pour tirer un bilan en dehors du côté baroque, du personnage, de ses provocations, etc. Finalement, est-ce qu'il y a... Qui gouverne? Quel Trump gouverne? Est-ce que c'est le Trump de Bannon? Cet idéologue d'extrême droite, raciste, ou est-ce que c'est le Trump finalement des généraux? Il semble qu'en politique étrangère, il laisse très libre cours à l'important nombre de généraux qu'il a nommés au sein de son administration. Ou est-ce que c'est le Trump des hommes d'affaires, c'est-à-dire de son gendre, Jared Kushner?
Je dirais que c'est les trois. Et c'est ça qui est intéressant et inquiétant à la fois. En politique étrangère, il est clair que Trump fait confiance, entre guillemets, aux experts. Et en particulier en matière de sécurité, de défense. Mais là, il est le disciple, si j'ose dire, de Obama, qui faisait la même chose. C'est-à-dire que vous avez...
Obama n'aimait pas recourir à la force armée. Trump, oui, il a prouvé que s'il faut, il peut.
Tout à fait. Mais Obama demandait conseil à des militaires qui, en général, n'aiment pas tellement utiliser la force armée. Si vous regardez dans l'histoire américaine, ce sont très souvent les présidents qui ont imposé la guerre à leurs militaires et pas l'inverse. Et donc, dans sa vision des choses, il y a « je suis un personnage unique, je fais confiance à mes intuitions, à mon tempérament, mais je suis aussi conscient du fait que dans certains domaines clés, je n'ai pas d'expérience. » Mmh. Et donc, son équipe de politique étrangère, elle est plutôt rassurante. McMaster, Mattis, enfin, il y a des gens, même son ambassadrice aux Nations Unies, Nikki Haley, elle a du poids, elle rassure.
Oui, mais elle peut dire une chose et son contraire, notamment sur Bachar, à quelques semaines de distance. On ne voit pas de fil conducteur à cette diplomatie.
C'est-à-dire on peut même aller plus loin et dire qu'il a trompé ses électeurs.
Oui.
Il leur a dit « l'Amérique d'abord, l'Amérique seule, je construis des murs, je ne m'intéresse pas au monde ». Mais en fait, depuis qu'il est élu, il applique plutôt le programme qui aurait été celui d'Hillary Clinton. Il dit « Dieu bénisse l'Amérique ». Et pas seulement l'Amérique, et le monde. Et en fait, il est dans une tradition d'interventionnisme universaliste américain. Son intervention en Syrie, d'ailleurs, ce qui est amusant, à un moment donné, il est interrogé, et il parle des missiles qu'il a envoyés sur l'Irak.
Ah, il se trompe, hein.
Il se trompe,
c'est à côté.
Et quand on lui dit, ah oui, bien sûr. Mais en fait, il est tout à fait à l'opposé de ce qu'il a promis à ses électeurs. Mmh. Je ne m'intéresserai pas à cela.
Dominique Moïse, là, il s'intéresse de près à la Corée, à la péninsule coréenne, puisqu'il y a ce navire avec des navires japonais qui arrivent aux abords de la péninsule. On se retrouve avec deux caractères, deux figures absolument dangereuse. Est-ce que vous pensez que les appareils peuvent prendre le pas et gérer la situation, ou est-ce que là, on est dans une zone extrêmement dangereuse dans cette région du monde ?
Potentiellement, c'est le plus grave danger que le monde puisse connaître, c'est-à-dire deux personnalités totalement imprévisibles,
le Nord-Coréen,
qui se retrouvent l'une face à l'autre, de Pyongyang à Washington. La rationalité semble pour partie absente. Et en même temps, si on veut analyser ce qui se passe avec des catégories rationnelles, on peut dire que l'intervention en Syrie, elle est décidée à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, qu'on appelle la Maison Blanche d'hiver du président américain, alors qu'il est en train de dîner avec le président chinois, Xi Jinping. Et on peut voir un message clair. Mm-hmm. Attention, si vous ne contrôlez pas les Nord-Coréens, comme vous devez le faire, eh bien c'est moi qui vais m'en occuper, comme je suis en train de m'occuper de la Syrie de Bachar el-Assad, parce que la Russie de Poutine ne le fait pas.
Oui, mais enfin, sur la Corée du Nord, on a affaire à un régime qui possède l'arme nucléaire. On le voit mal renoncer à cette arme. Donc, quelle est l'issue ? Je veux dire, est-ce qu'il faut discuter de dénucléariser la Corée ou de trouver un mode de gestion avec une Corée du Nord nucléarisée ? On n'a jamais vu un régime rendre l'arme nucléaire une fois qu'il l'avait. Enfin, un pays même.
Oui. Non, je crois que c'est sans doute la deuxième hypothèse. Mais on est monté très haut dans l'escalade. Le président américain a laissé entendre qu'il pouvait éliminer physiquement les leaders nord-coréens. Les leaders nord-coréens ont dit très clairement que si on les attaquait, ils répliquaient immédiatement par l'usage de leurs armes nucléaires. Alors l'Amérique se tourne vers Pékin et dit: c'est votre problème, montrez que vous êtes une très grande puissance mondiale, contrôlez les Nord-Coréens. Le
les
problème.
Chinois sont prêts à le faire, à votre avis?
Non, parce que pour les Chinois, la Corée du Nord, c'est un état tampon qui les protège de l'alternative qui serait une Corée réunifiée autour de la Corée du Sud et qui ferait en sorte que les troupes américaines seraient aux frontières de la Chine.
Vous parlez d'une folie baroque à propos de ce régime.
Baroque.
Folie et secte baroque. C'est quand même, ce qu'il y a de plus inquiétant actuellement sur la scène internationale.
Mais c'est-à-dire que c'est une puissance nucléaire qui se trouve dans une zone extrêmement centrale de la croissance économique. Enfin, 85% de la nouvelle croissance économique vient de l'Asie. Et la Corée du Nord, elle est quand même au cœur de ce continent de l'espoir et de la croissance. Et on risque effectivement un affrontement grave.
Dominique Moïse, je voudrais revenir sur cette crise nord-coréenne où on parle beaucoup de nucléaire. Poutine aussi parle de nucléaire, Trump parle de nucléaire, d'améliorer l'arsenal. Est-ce que le tabou de la dissuasion est en train de tomber? C'est-à-dire que l'arme nucléaire est en train de devenir une arme qu'on envisage d'utiliser sur le terrain avec des petites armes nucléaires, tactiques, etc. On a l'impression qu'elle est en train de se banaliser depuis quelques mois dans le discours.
Si c'est le cas, c'est très grave.
Mais est-ce que c'est le cas ?
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est que l'arme nucléaire, elle est en réalité mise en avant de manière beaucoup plus claire depuis quelques années avec la montée des tensions. Vous avez la Russie qui dit « Attention, je suis la deuxième puissance nucléaire mondiale. Vous devez me traiter avec respect. Vous, Américains, dans les années 90, vous m'avez humilié, vous m'avez négligé, vous avez fait comme si je n'existais plus. Eh bien, je suis de retour, c'est le message de Poutine, et je suis de retour avec l'arme nucléaire. »
Là, on reste dans la pratique de
Les Chinois disent, attention, nous aussi, on est une puissance nucléaire. Les Japonais, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, commence à laisser entendre qu'il pourrait, dans certaines circonstances, abandonner toute la politique qui a été la leur, en dépit d'Hiroshima et de Nagasaki, parce que ça devient trop dangereux. Et donc, quand vous regardez les scénarios, l'Iran, qui veut absolument être une puissance nucléaire, eh bien, si elle le devenait, l'Arabie Saoudite, la Turquie diraient immédiatement « Ben nous aussi, nous allons le devenir ». Donc il y a cette montée de l'arme nucléaire comme une potentialité plus grande, et je crois que rien ne serait plus dangereux de mon point de vue que de la banaliser. Elle reste l'arme absolue, et donner l'arme absolue à des puissances qui ont une idéologie absolue, c'est très dangereux.
Est-ce que Trump a des contre-pouvoirs? On va voir par exemple quelques images d'une manif de scientifiques qui a eu lieu à Washington. Est-ce que la rue, est-ce qu'un certain nombre d'acteurs économiques, scientifiques, culturels peuvent être un contre-pouvoir aux États-Unis de Trump? Car actuellement, on ne voit pas qui est le contre-pouvoir.
Non, je crois qu'il y a les contre-pouvoirs classiques du check and balances. Ouais. Il peut pas tout faire, et on l'a vu quand il a voulu supprimer la réforme Obamacare et la remplacer par sa propre réforme. Il a échoué lamentablement. Donc il y a le jeu des check and balances, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a la société civile, et elle est pour moi le grand espoir. Il y a un film que j'ai vu qui montre Sully, c'est l'histoire vraie
ce pilote
de ce pilote qui crache l'avion sur l'Hudson, et le message de Clint Eastwood, qui est républicain, est de dire les honnêtes gens. Ça existe. Il peut y avoir l'histoire factuelle, les vérités approximatives, alternatives, mais regardez, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie, à aller contre le système, parce qu'ils savent ce qui est juste.
Dominique Moisy, je voudrais savoir comment vous évaluez l'effet de contagion possible de l'état d'esprit d'un Trump. On a vu qu'il a été pro-Brexit. Et le Brexit est arrivé. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Ou est-ce que le fait qu'il ne soit pas aussi lisible que ça, puisque un temps il est pro-Brexit, ensuite il parle de son besoin d'une Europe forte, il n'est plus si lisible que ça, et du coup l'effet contagion pourrait être endigué?
Alors je crois qu'il y a deux interprétations possibles. La première, c'est l'effet contagion. Jamais 203. Brexit, Trump, et vous voyez à quoi on peut penser dans d'autres pays. On peut penser au contraire que un certain nombre de pays disent, au moment d'aller voter, attention, le monde est devenu trop incertain, trop dangereux, il ne faut pas ajouter du chaos au chaos. On ne peut pas, au moment où il y a Trump aux États-Unis, un Poutine toujours plus agressif en Russie, faire n'importe quoi. Et vous avez eu des élections en Autriche, aux Pays-Bas, qui peuvent être lues comme une sorte de réflexe, au contraire, de prudence. Attention, n'allons pas trop loin. Maintenant, Trump, comme le Brexit, sont le produit, me semble-t-il, de la rencontre entre trois mots. Le mot de colère. Colère contre les élites. Colère contre les élites politiques en particulier. Le mot de peur. Peur du futur. Peur de l'étranger. Et le mot de nostalgie. Nostalgie d'un monde qui n'existe plus. Et ça, ces trois mots, ils existent toujours dans la conscience politique des pays démocratiques, et il faudra vivre avec.
Dominique Moisy, on fait une pause sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. On vous retrouve, on a encore beaucoup de questions sur ces 140 chroniques que vous avez gardées dans ce livre sur le nouveau déséquilibre du monde. A tout de suite.
Vous écoutez RFI, les midi et demi à Paris, 10h30 en temps universel.
Hugo Lannoy.
Au Retour à l'international. Nous recevons Dominique Moisy, spécialiste de politique internationale, qui publie ce nouveau déséquilibre du monde. Nous avons beaucoup parlé des États-Unis, de Trump. Nous allons faire le tour du monde. Je donne tout de suite cette information. On vote aujourd'hui, vous le savez, en France et dans de nombreux bureaux de vote à travers le monde. Nous n'en parlerons pas dans cette émission ou de façon très indirecte, vous l'aurez compris. On est en période de réserve, mais cette information que nous pouvons vous donner, puisqu'à midi, la participation en France est de 28,54%. En gros, c'est la même participation qu'il y a 5 ans, donc une participation plutôt haute. Naturellement, restez avec les rédactions de TV5, de RFI et du Monde pour suivre cette consultation importante. Toutes les rédactions sont mobilisées. Question de retour avec Christophe Ayad.
Dominique Moisy, vous parliez tout à l'heure de la Russie, qui est en pleine réaffirmation de sa puissance. Et vous disiez, on s'est senti humilié, comme dit Poutine. Il y a tout un débat autour de ça. Je voudrais savoir quelle est votre position. Est-ce que la Russie a été humiliée et les Occidentaux n'ont pas tenu leurs engagements, poussant les frontières de l'OTAN trop loin, jusqu'à leurs frontières, je pense aux pays baltes, ou est-ce que c'est la Russie qui est dans un discours imaginaire de victimisation et les Occidentaux ont tenu leur parole et donc les troubles en Ukraine, en Géorgie ne sont absolument pas justifiés?
Non, la Russie a été réellement humiliée, mais elle se sert de cette humiliation comme d'une arme. Une arme intérieure pour retrouver la popularité auprès du leadership politique. Le discours de Poutine, c'est « je vous ai rendu la fierté ». Mais la Russie se comporte un peu comme l'Iran. L'Iran disait dans toutes les négociations sur le nucléaire, vous nous avez humiliés, Mossadegh, Mossadegh, Mossadegh. Et la Russie dit de manière différente la même chose. Nous sommes un grand empire, vous n'avez pas tenu compte de nous. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'on est en train de célébrer, commémorer le 100e anniversaire de la révolution bolchevique. Et j'ai vu récemment à Amsterdam une exposition organisée au musée de l'Ermitage, donc par les Russes, sur la révolution et les Romanov. Eh bien, le message était très clair. Ils étaient plus du côté des Romanov que du côté de la révolution. Ils se prétendent plus comme les héritiers de l'Empire que comme les héritiers des bolcheviks.
Mais comment traiter avec la Russie d'aujourd'hui? Alors, il faut faire preuve de fermeté et dire stop, il y a des limites, ou alors il faut réengager un dialogue, dire on vous a entendu, on vous a humilié, on ne recommencera pas, etc. Comment on peut traiter avec Poutine?
Je crois avec un mélange de compréhension culturelle, j'ai compris, et de fermeté absolue. Il faut fixer des limites à Poutine. Et il comprend ce langage. Ce qu'a fait Obama en Syrie en 2013, en ne faisant pas respecter la ligne rouge au moment des d'utilisation par le régime de Bachar el-Assad des armes chimiques contre sa population, a été immédiatement interprété par Vladimir Poutine comme un feu vert pour la prise, la récupération de la Crimée. Et donc c'était le message le plus négatif possible.
Jusqu'où la fermeté? Est-ce que l'invasion de la prise de la Crimée est réversible?
Non. Non. On peut penser qu'en gagnant, entre guillemets, la Crimée, Poutine a perdu l'Ukraine. Et donc il a eu un gain minimal pour une perte plus importante. Maintenant, je crois qu'il est essentiel pour nous de dire aux Russes, mais nous connaissons votre histoire. Nous savons que la Crimée, c'est essentiel pour vous. Enfin, il y a un jeune officier qui s'appelle Léon Tolstoï, qui est au siège de Sébastopol en 1853-54, et il tire de cette glorieuse défaite l'idée de guerre et paix. Puis il va se dire quand même, traité d'une défaite, c'est pas bien, et il revient à la grande guerre contre Napoléon. Ça fait partie de leur histoire.
Dominique Moisy, je le rappelle, l'exercice que vous nous proposez, c'est donc la synthèse de quelques 140 chroniques écrites fortement à chaud, que l'on lit avec le recul. Vous n'avez pas, si je puis dire, pardon de le répéter, vu venir Trump, par contre, vous pressentez que le Brexit va avoir lieu, contre une sorte de consensus chez les observateurs. Et qu'est-ce que ça change, ce Brexit? Vous dites parmi les fausses idées, dire l'Europe Europe c'est fini, par exemple, c'est une assertion fausse. Alors, Europe affaiblie ou Europe qui est en train de se déconstruire ?
Bon, en toute honnêteté, j'ai vu venir le Brexit très tard. C'est-à-dire, j'ai été convaincu un peu plus d'une semaine, 10 jours avant, que les Anglais allaient dire non à l'Europe. Et j'ai été convaincu émotionnellement. Je suis à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. On célèbre l'anniversaire formel de la reine. Et je vois un petit orchestre habillé en tenue victorienne, rouge, un peu ridicule, qui joue des musiques type Gilbert and Sullivan. C'est l'Offenbach anglais. Ils sont tellement heureux, ils sont tellement provinciaux, que je me tourne vers ma voisine, qui est l'ambassadrice de Suède, et je lui dis, je suis certain qu'ils vont voter contre l'Europe.
Bravo, ce sont des signaux faibles.
Ça. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils se sentent si bien chez eux, sans nous. Mais je l'ai vu venir assez tard.
Alors qu'est-ce que ça change ? L'Europe qui se déconstruit ? L'Europe qui est affaiblie temporairement ?
Je crois que l'Europe a besoin de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est, avec la France, le seul pays qui pense réellement de manière stratégique, qui est une culture d'intervention. Il faudra encore très longtemps à l'Allemagne avant qu'elle transcende son passé pour se sentir totalement désinhibée par rapport à l'intervention militaire. Or, le monde est toujours plus dangereux. Et un des deux pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU est en train de quitter l'Union européenne.
Dominique Moisy, on a fait depuis tout à l'heure un certain nombre de références à l'histoire. Que pensez-vous de la validité des analyses qui font un comparatif entre la France d'aujourd'hui, ou l'Europe d'aujourd'hui, et celle des années 30, voire même, qui remonte voire même à 1913 ?
Je crois que pour comprendre le monde dans lequel on vit, l'outil le plus utile pour moi demeure l'histoire. Mais il y a deux types de comparaisons qui sont essentielles pour comprendre l'environnement international. C'est le monde de la fin du XIXe siècle, avec la montée des nationalismes, et le monde des années 30, avec la montée des populismes. Et vous devez combiner ces deux clés de lecture pour arriver à une compréhension du monde actuel. Et c'est ça qui me paraît effectivement très dangereux, parce qu'on est à la fois dans l'avant 1913 et dans la période de 1930.
Et vous avez l'impression que les leaders européens ont ça en tête ?
Les années 30, certainement. Je crois que la comparaison est faite fréquemment, avec quand même la protection que constitue le fait que les années 30 ont eu lieu. On sait qu'elles ont mené à la Deuxième Guerre mondiale. On sait que la montée du populisme extrême, ça a mené à l'Allemagne nazie et au suicide de l'Europe.
Et est-ce que, justement, la montée et du populisme et du nationalisme, qui tous les deux sont une forme de réaction violente à la mondialisation, ne conduit pas à repenser la mondialisation ? Est-ce qu'il ne faut pas ralentir un peu la machine ? Ça a finalement appauvri beaucoup de gens. Je ne suis pas sûr que ça en ait enrichi tellement. Est-ce qu'il ne faut pas un peu...
Non, il y a très peu.
Alternatives à la mondialisation qui ne soient pas un protectionnisme pur et dur, mais quelque chose d'un peu, plus pensé, plus modéré.
Je crois que l'accélération du monde de Davos, le monde popularisé par le journaliste américain Tom Friedman, quand il disait « la Terre est plate ». Ce monde a été trop vite, trop loin, a créé des inégalités trop grandes. En fait, il y a des gens qui se sont enrichis du fait de la mondialisation de manière phénoménale.
Mais ils sont pas très nombreux.
Ils sont très peu nombreux, voilà. Mais ils sont de plus en plus riches. Et je crois que la montée des inégalités est une des causes de la crise que nous vivons. C'est-à-dire, il y a des chiffres qui sont très intéressants. Dans les années 70, aux États-Unis, dans une entreprise, l'écart entre le patron et l'ouvrier le moins payé était de 40 à 1. On est passé dans les années 2007 à 400 à 1. Et maintenant, on est à 601 pratiquement. Donc cette montée, c'est-à-dire le consensus social est brisé par des inégalités qui ne sont plus acceptables, compréhensibles par l'ensemble de la population. Donc je crois qu'il faut... Alors, Pascal Lamy dit avec beaucoup d'élégance, il faut civiliser la mondialisation et c'est la mission de l'Europe. J'avoue que cette formule me gêne parce qu'elle me évoque la mission civilisatrice de l'Europe qu'on utilisait au XIXe siècle. Je crois qu'il faut humaniser la mondialisation, en ralentir le rythme, mais la dénier complètement, revenir à des politiques protectionnistes, abandonner le multilatéralisme, se contenter du bilatéralisme, rejeter au nom du nationalisme toute forme d'ouverture à l'autre, c'est suicidaire.
Sophie Malibon.
Il y a l'économie, il y a la mondialisation, la montée des inégalités, etc., qui suscite de la colère, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un défaut de la démocratie à gérer le temps, et notamment à passer outre le temps électoral qui est de plus en plus rapide? À peine une élection est passée, on est déjà dans la suivante.
Ben, je crois qu'après les élections françaises, on s'interrogera sur le rôle des primaires qui ont allongé le temps électoral de manière peut-être dangereuse pour la démocratie elle-même. Et il y a un problème clé, structurel, qui est que les qualités nécessaires pour être élu ne sont pas nécessairement les qualités nécessaires pour gouverner. Et les personnalités qui ont les qualités pour être élues et les qualités pour gouverner sont rares.
Mais est-ce qu'on n'arrive pas à une impasse, une forme d'impasse de la démocratie libérale, parlementaire, occidentale, qui est devenue une sorte de supermarché du vote, avec beaucoup de marketing, avec effectivement beaucoup de démagogie, comme vous le soulignez. Donc, à la fin de ce modèle, c'est Trump, comme vous disiez.
Il faut espérer que ce soit la fin et qu'on n'aille pas beaucoup plus loin. Mais oui, c'est un monde que je connais mal parce que dans mes références personnelles, je suis plus un homme du XVIIIe siècle que du XXIe siècle. Mais les réseaux sociaux, voilà. La révolution de l'information est effectivement un défi. Pour la démocratie. On peut dire n'importe quoi en permanence.
Dominique Loisy, vous ne faites pas que décrire ce que nous proposez ces quelques 140 rubriques. Vous avancez des propositions pour que le monde soit moins en déséquilibre, se rappeler de nos valeurs, fixer des limites à Poutine, et vous dites lutter contre le terrorisme. Ce terrorisme, on le voit, frappe quotidiennement de par le monde. Comment lutter contre ce terrorisme sans qu'il y ait une montée des populismes indiquant telle ou telle religion?
Je crois qu'il y a un parallèle que je ferai entre les réactions au 11 septembre et les réactions à Daesh. Les Américains ont sous-estimé la menace terroriste avant le 11 septembre 2001. Il y avait un mélange d'hubris et d'euphorie. Nous sommes la première puissance mondiale, c'est le moment que décrit Hubert Védrine, l'hyperpuissance américaine. Et puis après, ils ont surréagi. Et cette surréaction, elle conduit à des catastrophes, comme la guerre en Irak, qui est à l'origine de la création de Daesh. Daesh, nous ne le voyons pas venir. La prise de Mossoul en 2014 est une surprise pour tout le monde. La rapidité avec laquelle l'armée irakienne, suréquipée par les États-Unis, s'effondre, nous prend de court. Là, on a sous-estimé la menace de Daesh. Et je me demande aujourd'hui si on n'a pas tendance à la surestimer. Et donc le premier point pour moi est de trouver une juste lecture de la menace. La menace existe. Elle est existentielle. Mais il y a d'autres menaces à côté de celle-là. Et sur ce qui se passe en Corée du Nord, oui. Il peut y avoir une guerre nucléaire, la montée des ambitions russes, la montée des populismes. Nous sommes confrontés à toute une série de menaces. et ne retenir que l'une d'entre elles, c'est déjà une mauvaise réponse.
Et quand on a le nez sur l'actu et qu'on regarde le dernier attentat, est-ce qu'il vous semble que c'est raisonnable d'estimer que ça pourrait avoir un impact direct sur le vote ?
Non, pas du tout. Je crois qu'on est dans un monde dominé par les émotions. Il est incontestable que la peur joue un rôle dans le vote des électeurs. Mais quel rôle ? Voilà. Bah, on le saura dans quelques heures.
Il y a un continent dont on n'a pas parlé dans ce nouveau déséquilibre du monde. Il s'agit de l'Afrique,
oui,
où nous sommes très présents. RFI, TV5 Monde, également le quotidien Le Monde. Quelle place pour l'Afrique ? On parle d'une montée en puissance économique, d'une meilleure gouvernance. Cette vision optimiste tarde à se réaliser.
Oui, alors l'Afrique est nécessairement le continent de l'avenir, ne serait-ce que de manière quantitative. En 1950, l'Afrique, c'est 180 millions d'habitants. En 2050, ce sera plus de 2 milliards d'habitants. Et en Afrique, on trouve des tendances extraordinairement contradictoires. D'un côté, l'espoir gigantesque, avec de nouveaux dirigeants qui ont le sens des responsabilités et du bien public, et en même temps des causes de désespoir énormes qui peuvent être d'origine politique, le nettoyage ethnique qui est toujours présent, d'origine climatique, avec sans doute des réfugiés climatiques qui vont se multiplier avec le réchauffement de la planète, qui est une réalité, et des hésitations économiques, car il y a les deux. Et en fait, les Chinois ont découvert l'importance de l'Afrique avant nous, pour le meilleur comme pour le pire.
Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un moment perdu pour l'Afrique ? Il y a eu un espoir en tout cas énorme au moment de l'élection d'Obama, et après une grande déception. Comment est-ce que ça a pu arriver ? Les Américains ne s'intéressent pas à l'Afrique ?
Un peu plus. Très clairement, symboliquement un peu plus, lorsqu'Obama arrive au pouvoir, mais ça ne se traduit pas ni sur un plan économique, ni sur un plan géopolitique. C'est-à-dire, je crois que les historiens seront beaucoup plus généreux avec Barack Obama que ne peuvent l'être ses contemporains. Il y a un échec clair en matière de politique étrangère dans sa décision de ne pas intervenir en Syrie en 2013, mais il restera quand même comme un grand président. Il a fait des réformes à l'intérieur qui sont essentielles. Il a présenté de l'Amérique une image de dignité, de générosité, d'intelligence politique qui resteront comme un modèle que l'on redécouvrira par la suite.
Christophe Ayane, Le Monde.
Dominique Moisy, je voudrais revenir, vous parliez de l'explosion démographique de l'Afrique, qui est un phénomène long, et du réchauffement climatique, qui est un phénomène long aussi. Ce qui m'amène à parler de l'Europe, puisque probablement l'Europe va être confrontée à de nouvelles crises de réfugiés. Comme ça a été le cas en 2015, mais pour d'autres raisons. À l'époque, c'était la guerre en Syrie. Comment vous jugez cet épisode-là, et comment vous pensez que l'Europe peut ne pas éclater face à la question réfugiés ? Il semble quand même qu'elle est coupée en deux, entre ceux qui sont pour un accueil et ceux qui voudraient en faire une forteresse.
Bon, la crise des réfugiés, l'Europe n'en est pas sortie grandie. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez eu pendant très longtemps des Italiens, des Grecs qui se tournaient vers le reste des Européens et qui leur disaient « aidez-nous, nous ne pouvons pas accueillir et tous les réfugiés ». Et j'ai encore en tête une phrase d'un président de la République balte, je ne vais même pas le citer, qui disait « les réfugiés c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre ». Pour être juste, les Italiens disaient l'Ukraine, la crise ukrainienne, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Tant que les émotions européennes demeurent nationales et géographiques, il n'y a pas d'Europe. Alors, en même temps, et je voudrais rendre hommage à Angela Merkel, elle a sauvé l'honneur de l'Europe en suivant ses émotions, en réagissant selon ce qu'elle jugeait comme juste, les valeurs de l'Europe. Elle qui était réfugiée aussi allemande, elle disait « je dois sauver ces gens qui viennent chercher refuge chez moi ».
On assiste aussi à un autre réflexe à la suite de cette crise des réfugiés, c'est un certain nombre de leaders européens qui estiment que pour fixer justement les gens dans leur pays au sud de la Méditerranée, il faut améliorer le développement. C'est dans les discours, mais il n'y a pas d'actes.
Non mais c'est évident, une politique européenne responsable à l'égard de la question des réfugiés, elle commence en Afrique, elle commence au Moyen-Orient. Au fond, nous sommes aujourd'hui victimes du chantage potentiel possible de la Turquie d'Erdogan, qui peut nous dire « vous n'aimez pas mon régime, vous voulez m'isoler, me critiquer, eh bien j'ouvre les portes, vous allez avoir un million de réfugiés ». Même chose, bien entendu, à l'égard de la crise syrienne. Vous voulez résoudre le problème des réfugiés, trouver une solution politique en Syrie.
Christophe Ayad.
Dominique Moïse, j'aimerais terminer par la France. Vous disiez qu'aux États-Unis, il y avait le système des checks and balances. On l'a vu, la Cour suprême qui, par exemple, a refusé la première version du décret anti-immigration, la justice de Trump, la justice qui a rejeté la deuxième version, etc. Est-ce qu'en France, quel que soit le vainqueur de cette élection présidentielle, il y a un système suffisant, les institutions sont assez solides par rapport au pouvoir exécutif du président qui est quand même extrêmement fort?
C'est une question difficile. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Le Parlement français, les deux chambres, sont infiniment plus faibles que ne l'est le pouvoir législatif aux États-Unis. Nous n'avons pas le pouvoir des juges au même titre que l'Amérique. Le Conseil constitutionnel n'a rien à voir avec la Cour suprême. Nous sommes une monarchie électives. Les pouvoirs que le suffrage universel et la constitution de la Ve République confèrent au président de la République en font l'homme ou la femme la plus puissante du monde démocratique.
Dominique Moisy, nous sommes ensemble depuis une cinquantaine de minutes. Nous sommes sur une période de réserve. Nous avons réussi l'exploit de ne pas parler de l'élection présidentielle française. Bravo à vous en tout cas. Vous allez ce soir intervenir, commenter, notamment je crois sur la BBC. Cette élection française est très attendue, très suivie dans le monde. Il y a un enjeu international.
Alors, je ne crois pas que dans l'histoire de la Ve République, une élection ait été suivie avec autant d'intérêt et autant d'inquiétude. En fait, on pourrait dire que c'est l'année de la France, 2017, pour de mauvaises ou de bonnes raisons.
D'un mot, tout à l'heure vous parliez du bilan d'Obama, on peut parler de celui d'Hollande, il n'est pas candidat. L'histoire revisitera ce qu'il a fait, il est le plus impopulaire aujourd'hui.
Je vais rester dans le domaine qui est le mien, celui de la politique étrangère. Je crois que son bilan sera regardé comme globalement positif.
Je rappelle donc cette information que nous vous donnions tout à l'heure, une participation qui semble importante, en tout cas davantage qu'on ne le pressentait, avec 28,54% de participation à 12h. Voilà, vous suivrez naturellement sur les antennes de RFI TV5 Monde et avec Le Monde cette grande soirée électorale qui est en train de se vivre avec donc les Français de par le monde et en France qui votent. Résultat donc tout à l'heure dans quelques heures sur les antennes. Merci de votre fidélité. Merci Dominique Moisy. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre international.
RFI, la radio du monde.
Un peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanoui, heureux. j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Celui qui peut croire, moi j'ai pas.